Bonjour mes frères et mes sœurs. Connaissez-vous Dieu, son caractère, sa nature, ses projets pour vous, l'avenir qu'il réserve à tous les êtres humains? Aujourd'hui, en ce bon monde, il y a tellement de religions, il y a tellement de façons de penser en ce qui concerne Dieu. Je dirais même, il y a tellement d'inventions concernant Dieu. Qui donc est Dieu? Nous a-t-il vraiment créé? Y a-t-il un Dieu ou plusieurs dieux? Y a-t-il une religion ou plusieurs religions? Regardez autour de vous, marchez dans la rue, parlez à quelqu'un, demandez-lui ce qu'il croit en ce qui concerne la création. Il a ses propres idées. Allez à l'école, entendez, écoutez les professeurs qui vous parlent de Dieu. Il y a plusieurs façons de définir Dieu. Il y a plusieurs façons de dire qui est Dieu. Et même plusieurs façons de deviner comment Dieu a créé le ciel et la terre. Autrement dit, en cette terre, sur cette terre, je dirais, de confusion, en ce monde où il y a tellement d'idées, l'idée de Dieu, vraiment parlant, est une façon d'exprimer les idées d'hommes. Franchement parlant, pourquoi y a-t-il tellement d'églises chrétiennes? Regardez autour de vous. Il y a des centaines et des centaines d'églises qui se nomment chrétiennes, et pourtant elles ont des doctrines différentes. Y a-t-il tellement de pensées en ce qui concerne Dieu? Tellement d'idées à son sujet? Pourquoi alors certaines personnes ont leur propre Dieu, ont leurs propres idées, ont leur propre façon de se sauver ou bien de se sentir être sauvé? Prenez en ce qui concerne les églises. Il y a Dieu, il y a les églises, il y a les idées. Il y a la façon même de créer un monde, de créer une religion, de créer une sorte de vie qui répondrait à nos besoins, mais non pas nécessairement au commandement de Dieu. Voyez-vous, il ne peut y avoir plusieurs dieux. Il ne peut y avoir plusieurs créations en ce qui concerne ce que nous voyons. Il ne peut y avoir plusieurs églises de Dieu. De temps en temps, des gens qui nous disent, mais comment puis-je trouver la bonne église? Que cherchez-vous? Qu'entendez-vous par la bonne église? Voudriez-vous une église qui réponde à vos besoins, à vos demandes, à votre façon de penser, de raisonner, de vouloir, à votre façon d'obéir? Ou voudriez-vous une église qui vous dise quelle est la volonté divine, quelle est la voie à suivre pour arriver au salut? Salut, que dis-je? Il y a beaucoup de gens qui ne pensent même pas qu'il y a un salut. Ils ne savent pas pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous vivons, pourquoi nous mourons, et que se passe après la mort. Voyez-vous, j'ai rencontré, et je rencontre encore, certaines personnes qui me disent, écoutez, j'aime Dieu, je voudrais le trouver, je voudrais savoir comment lui plaire. Si c'est le cas, dans ces cas-là, allez-vous? Vous n'avez pas besoin de vous demander où aller pour trouver la bonne religion. La religion se trouve dans la Bible. Prenez cette Bible, ouvrez-la, mettez-vous à genoux, priez Dieu, dites-lui, écoute Dieu, guide-moi, montre-moi comment être un meilleur chrétien, un meilleur disciple. C'est un commencement, voyez-vous. Après cela, soyez certains, soyez honnêtes. Après cela, faites ce que vous apprenez en lisant la Bible. Faites ce que vous apprenez en étudiant la parole de Dieu. Faites en toutes choses, en toutes occasions, ce que Dieu vous dit et non pas nécessairement ce que vous voulez faire. Je répète, chercher la bonne église n'est pas la façon de chercher Dieu. Chercher Dieu à votre façon n'est pas la bonne façon de découvrir la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule Église. Et si vous voulez vraiment où est ce Dieu, où est cette Église, dans ce cas-là, retournez en arrière, si vous voulez. Revenez en arrière, si vous voulez. Commencez par le commencement, par le jour où vous vous êtes trouvé souvent face à cette question, qui est Dieu? C'est ça, c'est un commencement. Commencez par où est Dieu et qui est Dieu. Voyez-vous, il ne peut y avoir plusieurs façons de chercher Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs Christ. Il n'y a pas plusieurs créations. De temps en temps, des gens me viennent, je vous le dis, disent, écoutez, que devrais-je faire pour trouver la bonne Église? Eh bien, ce n'est pas vous qui trouvez la bonne Église. C'est Dieu qui vous guide vers la bonne Église. Et une fois que vous êtes guidé vers cette bonne Église, sachez une chose. Vous êtes, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, dans l'Église de Dieu. Mais vous savez fort bien que ce que Dieu vous dit dans la Bible, ce que vous apprenez dans l'Église, ce que vous apprenez en parlant à un ministre de Dieu, ce n'est pas toujours conforme à vos désirs. Ce n'est pas toujours la façon dont vous voudriez vivre. Et c'est normal parce que vous, moi, nous sommes des êtres physiques, des êtres charnels. Nous ne pensons pas comme Dieu. Dieu pense différemment parce que l'amour de Dieu est pur. Le vôtre, le mien, ne le sont pas. Les sentiments de Dieu sont purs. Les vôtres, les miens, ne le sont pas. La différence, c'est qu'il faut que l'Esprit de Dieu entre en nous, pénètre dans nous, nous change et nous fasse de plus en plus comme Dieu. C'est une progression. Nous progressons dans une religion, dans la bonne religion. Nous progressons dans nos rapports avec Dieu. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous commençons à penser comme lui, moins nous chercherons où est la bonne Église. Vous ne trouverez jamais la bonne Église à moins que Dieu vous y appelle. Ensuite, une fois que vous êtes appelé dans la bonne Église, je vous dis d'avance, et je vous assure, vous ne serez pas toujours d'accord. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous qui vous dira ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, tournez-vous vers la Bible. Dites-vous à vous-même, est-ce vraiment ce que Dieu dit? Est-ce vraiment ce que Dieu veut? Est-ce vraiment la façon dont je devrais changer? Mettez-vous à genoux chaque jour. Priez Dieu pour qu'il vous guide. Demandez Dieu à vous aider plutôt. Demandez Dieu à vous aider afin qu'il vous dirige vers la bonne attitude. Il y a des gens qui cherchent une église pour plaire à leur vie, à leur propre vie. Être plus proche d'une église, être plus proche des membres d'une famille. Autrement dit, on cherche à trouver une église qui nous rende la vie facile ou une religion qui nous aiderait à être plus croyants tout en ayant une vie plus facile. Mais frères et mes sœurs, vous le savez fort bien, ce n'est pas la façon de chercher Dieu, ce n'est pas la façon de réunir vos pensées, ce n'est pas la façon vraiment d'être dans la vérité. Vous ne cherchez pas Dieu parce que vous êtes près d'une église, d'un domicile, d'une famille, des amis. Vous ne changez pas de religion parce que la personne à qui vous intéressez peut-être pour un mariage, je ne sais, a une religion différente. Ce ne sont pas là des excuses pour vous aider à trouver Dieu ou la bonne église. Voyez-vous, c'est ça qui importe. Pour chercher Dieu, pour être proche de Dieu, vous ne devez pas être égoïste. Et en plus, pour vraiment découvrir Dieu, il faut vous débarrasser de vos sentiments humains, de vos penchants charnels. Soyez prêts à changer de ce que vous êtes, de ce que Dieu veut que vous soyez. C'est ça, voyez-vous, ce qui importe dans la vie. Autrement dit, on ne peut pas dire « je cherche la bonne église ». Que faut-il faire que je trouve la bonne église ? Vous ne marchandez pas avec la religion. Vous ne cherchez pas la bonne église. Une fois que Dieu vous ouvre l'esprit, dans ce cas-là, vous commencez à vous diriger dans la direction que Dieu vous montre. Et je vous dis d'avance, ne soyez pas déçus, cette direction ne sera pas toujours conforme à vos désirs, à votre volonté, à votre façon de changer votre vie, à votre façon d'adapter votre vie aux besoins que Dieu vous montre. Je répète, il n'y a pas plusieurs églises. Si, il y en a des milliers d'églises, mais je parle maintenant de la bonne église. Il n'y a pas plusieurs dieux. Certes, nous avons créé les hommes, beaucoup de dieux, mais ce sont des dieux de création. Alors, revenons au commencement. Revenons au début. Comment trouver le véritable Dieu ? Comment découvrir la véritable Église ? Une chose est certaine, vous n'héritez pas d'une religion. La plupart des gens sont nés dans une famille, dans une religion, et conservent cette même religion sans même se demander si leurs parents, au commencement, avaient fait des recherches pour voir s'ils étaient dans la bonne Église. Je vous dis, demandez aux gens, comment est-ce qu'ils ont hérité d'une église ? Je dis bien hérité parce qu'ils ne sont pas vraiment nés dans une église, ils héritent d'une église. Si mes parents étaient, mettons, protestants ou catholiques ou je ne sais quoi, automatiquement, je me considère protestant, catholique et je ne sais quoi. Ce n'est pas la façon de trouver Dieu. Ce n'est pas la façon de trouver la bonne église. Et si vous avez eu cette tendance, il est tout à fait normal que vous demandiez, vous cherchiez à savoir comment faire, que devriez-vous faire pour trouver la bonne église. Cette bonne église que vous cherchez, ce ne sera pas, je répète, ce que vous pensiez être. À travers la Bible, il y a une phrase, un verset, je dirais, qui se répète à plusieurs reprises. Je peux la changer, si vous voulez, de diverses façons, mais l'idée est celle-ci. Si Dieu est Dieu, suivez-le. Si vous connaissez le chemin de Dieu, suivez-le. C'est cette phrase qui se répète, je répète, à plusieurs reprises, de façon différente. Par exemple, prenez l'exemple d'un roi d'Israël. L'Ancien Testament, il s'appelait Achab. Certains disent Achab, Achab, ça n'a pas d'importance, mettons Achab. Alors Achab, d'après la Bible, était le pire des rois d'Israël. Je dis bien tire parce que la Bible dit qu'il n'y avait pas d'autre roi pire que lui. Alors, Achab, avec tous ces crimes qu'il a commis, il cherchait à sa façon Dieu. Et il a tué les prophètes. Il a tué ceux qui croyaient en Dieu véritable, jusqu'au jour où un des prophètes de Dieu, Élie, regardez voir la façon d'Achab de réagir, un roi, 18, verset 17. À peine Achab aperçut Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Un roi méchant, le pire, dit à un prophète de Dieu, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Elle répondit, verset 18, un roi 18, verset 18, « Je ne trouble point Israël. Est-ce c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de Dieu ?» Voyez-vous, voilà déjà le commencement. Le prophète de Dieu dit, « Vous avez abandonné les commandements de Dieu. » Et que tu es allé après les Baals. Les Baals, dans la Bible, c'est les idoles, c'est les faux prophètes, tout ce que vous voulez. Voilà, donc, le prophète de Dieu dit à Achab, « que d'aller après d'autres dieux, des idoles, revient. Ensuite, il lui dit ceci. Il dit, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après d'autres dieux, maintenant, dit-il, rassemble Israël. Et dit-il, les 400 prophètes, je groupe l'histoire ici. Ensuite, il dit, maintenant, faites ce que je vous dis. Alors, Achab renvoie pour chercher ses propres prophètes, et aussi les prophètes de Dieu. Alors, Élie s'approche, verset 21, c'est ça que je cherche. Voyez-vous, moi, je ne m'intéresse pas aux détails ici, je vous donne les idées, c'est à vous de chercher le reste. Vous n'avez qu'à lire l'histoire. C'est une histoire très intéressante, mais ce qui importe, c'est cette phrase d'Élie qui se trouve au verset 21. Alors, Élie s'approche de tout le peuple et dit, qu'est-ce qu'il dit ? Jusqu'à présent, dit-il, clocherez-vous des deux côtés. Vous savez ce que c'est clocher, ce clocher. Il dit, si l'Éternel, regardez voir ses conditions, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Voilà, c'est cette base, c'est cette fondation qu'il vous faut. Si l'Éternel est votre Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, les idoles, les faux dieux, allez après lui. Et qu'est-ce que le peuple a fait ? D'après la Bible, le peuple ne lui répondit rien. C'est cette même réponse qu'on donne aujourd'hui. Chacun devrait se demander, est-ce Dieu, le Dieu que j'adore, le véritable Dieu ? Si c'est le cas, il faut que j'aille après lui. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment que je cherche le véritable Dieu, non pas à ma façon, mais à ma façon que la Bible me montre. Réfléchissez à cet avertissement. Si le Dieu que vous adorez est le véritable Dieu, si vous le trouvez dans la Bible, dans ce cas-là, allez après ce Dieu-là. Si ce n'est pas le cas, ayez le courage de changer. À l'époque, les gens ont voulu avoir d'autres dieux, d'autres juges. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les gens cherchent un dieu qui leur rendra la vie facile. Un dieu qui leur permettra de faire tout ce qu'ils veulent faire et en même temps les bénir. Vous ne pouvez pas faire cela, mes frères et mes sœurs. Si vous voulez être honnête avec Dieu, soyez honnête d'abord avec vous-même. Et ensuite, dans vos recherches, soyez sûr que c'est bien la volonté de Dieu que vous cherchez et non pas la vôtre. Et vous serez surpris la plupart du temps si vous vous examinez vous-même, vous verrez que dans vos propres raisonnements, c'est vos satisfactions que vous cherchez. C'est votre façon d'avoir les choses, de recevoir les choses, de faire les choses que vous cherchez et non pas la façon divine. Et une fois que vous avez découvert cette vérité, il vous faut prendre une décision. Changer ou bien rester sur place. Changer demande beaucoup d'efforts. Rester sur place ne demande pas grands efforts, sauf que savoir toujours cette instabilité en disant, suis-je vraiment dans la bonne voie ? Fais-je ce que Dieu me dit ? La réponse est tout à fait simple. Mais je répète, je reviens à cette phrase. Si le Dieu que vous adorez, c'est le bon Dieu, le Dieu de la Bible, le Père du Christ, dans ce cas-là, suivez-le. Si ce n'est pas le cas, si vous marchez d'après Baal ou les faux prophètes, suivez-les. La décision est la vôtre. Mais la décision dépend évidemment votre vie éternelle. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, la véritable religion demande un examen de soi. N'héritez pas d'une religion. Ne soyez pas chrétien, entre guillemets, parce que vos parents étaient chrétiens. Cherchez à voir quelles étaient leurs croyances. Cherchez à voir comment plaire à Dieu. Et s'il faut changer, changez votre vie, votre façon de penser, votre façon de réagir, selon les avertissements que Dieu vous donne dans la Bible. Je dis, soyez honnête. Ne soyez pas hypocrite. Nous sommes souvent hypocrites lorsqu'il s'agit de chercher Dieu. Nous sommes souvent hypocrites lorsqu'il s'agit de changer quelque chose en nous-mêmes. La véritable religion demande que vous puissiez vivre en paix les uns avec les autres. Vivre en paix ne veut pas dire que vous partagez ces façons de penser ou de raisonner, non. Je peux être en paix avec quelqu'un qui est tout à fait, je dirais, incroyant. Je peux vivre avec lui, je veux l'aimer, l'aider, sans pour autant faire des compromis. Parce que la Bible, c'est ça la Bible. La Bible nous dit comment aimer les uns les autres et comment aider les uns les autres, comment s'entendre les uns avec les autres alors que nous sommes différents. Mais cela ne veut pas dire que nous devons partager leur croyance ou la religion. La seule véritable religion est celle que Dieu nous montre dans la Bible. Et c'est cette religion, la véritable religion qui vient de la Bible, qui nous permet de vivre en paix avec notre prochain. D'avoir de l'amour à l'égard de notre prochain. De faire ce que Dieu veut que nous fassions pour lui rendre la vie heureuse. Et pour lui permettre en même temps de découvrir la véritable religion. Vous êtes-vous vraiment examiné pour savoir comment vous êtes venu à choisir vos croyances? Je sais que vous n'avez pas choisi, la plupart du temps, vous avez hérité. Mais examinez-vous vous-même. Pourquoi est-ce que vous croyez, par exemple, qu'il y a une vie immortelle? Où l'avez-vous apprise? Comment savez-vous que Dieu, après la mort, votre mort, va vous ressusciter? Avez-vous une garantie? Avez-vous quelqu'un qui puisse vous répondre avec autorité? Quelqu'un en qui vous croyez? Voilà des questions importantes. Je répète, la plupart du temps, nous héritons d'une religion et non pas vraiment découvrir la religion de Dieu. L'apôtre Jean a écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 3, quelque chose qui doit être vraiment important pour nous tous, qui doit occuper notre esprit. Jean écrit, je répète, Apocalypse 3, 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu, quoi ? La vérité, et entendu, et garde et repens-toi. » Voyez-vous, la véritable religion demande une repentance. Vous devez changer ce que vous avez cru, brûler ce que vous avez adoré, adorer ce que vous avez brûlé, comme on dit. Et ensuite, retenir ce que Dieu vous dit. Et Jean ajoute, sous l'inspiration divine, « Si tu ne veilles pas, c'est le Christ qui parle, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Autrement dit, nous sommes tous dans la même circonstance. Nous avons devant nous un avenir pas tout à fait certain parce que nous ne croyons pas, nous ne voyons pas, nous ne faisons pas les choses à la façon divine. Parce que notre esprit physique ne comprend pas ce que c'est que l'esprit spirituel, si vous voulez dire ainsi. Nous devons être sérieux dans nos recherches. Car c'est ainsi seulement que vous pouvez trouver le véritable Dieu, la véritable Église, et vous n'aurez pas besoin de changer d'Église, de changer de croyance. Parce qu'une fois que vous avez vraiment appris la bonne croyance, les bonnes instructions de la Bible, vous n'aurez pas besoin de changer. Vous n'aurez pas besoin de demander à qui que ce soit où est la bonne Église, comment faire partie de la bonne Église, comment adorer le véritable Dieu. Vous chercherez en toute chose, je répète, à faire la volonté de Dieu et non pas la vôtre. Ne soyez pas égoïste. Et là, vous avez besoin de courage. Si vous êtes courageux, et vous, lorsque vous voyez que ce que vous faites n'est pas juste, n'est pas juste bibliquement parlant, n'est pas juste au point de vue de Dieu, ayez le courage de changer. Ayez le courage de dire non, je vais quitter ma façon de penser, d'agir, de faire des choses, et je vais chercher à suivre la façon divine d'agir et de faire des choses. Dès ce moment-là, vous êtes sur la bonne voie, mes frères et mes sœurs. Mais ce n'est pas facile. Je répète. Parce qu'il y a une question d'obéissance. D'obéissance à Dieu. Et ce qui est donné dans la Bible, à nous tous, sur le point spirituel, n'est pas toujours facile sur le plan physique de suivre. On vient de croire. Voyez-vous, dès le commencement, Dieu s'est choisi une nation, Israël. Dès le commencement, Dieu a donné à Israël toutes les instructions nécessaires, tout, pour que le peuple puisse vraiment trouver le chemin du bonheur. Que s'est-il passé? Le peuple n'a pas voulu suivre les instructions divines. Le peuple n'a pas voulu faire ce que Dieu voulait. Il voulait être comme les autres nations qui, elles, n'avaient pas Dieu, l'éternel Dieu, à leur tête. Ils voulaient faire ce qu'ils veulent, ces gens-là. Mais pourquoi? Ces gens-là allaient après d'autres dieux, ils voulaient aller le peuple de Dieu, eux-mêmes, après d'autres dieux. Ces gens-là avaient des païennes, des coutumes païennes, et eux aussi voulaient avoir des coutumes païennes. Alors le prophète Samuel, sous l'instruction divine, est allé voir auprès le peuple, auprès des chefs du peuple. Il leur a dit tout ce qui peut arriver, tout ce qui va arriver, si eux, le peuple, suivaient leur façon et voulaient être comme les autres nations. Il leur a dit tout ce qui peut arriver, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Vous savez quoi? Après avoir tout entendu, les malheurs qu'ils auraient, les difficultés qu'ils rencontreraient, les maladies qu'ils auraient, tout ce que vous voulez, tout ce qui est mal ou mauvais, le peuple, je cite 1 Samuel, chapitre 18, verset 19 à 20, le peuple, devinez, refusa. Autrement dit, ils ont eu leur avertissement. Ils ont su ce que c'est. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Ils avaient Dieu, l'éternel Dieu comme roi. Non, ce n'était pas bon. Ils voulaient un roi sur eux, comme les rois des autres nations. Nous aussi, verset 20, nous serons comme toutes les nations. Regardez voir, ils avaient tout, et ils choisissent à être rien. Ils avaient l'éternel Dieu, ils choisissent à leur tête un homme mortel, un homme cruel, comme nous le sommes tous. Donc ils ont dit non, nous serons comme les autres nations. Notre roi humain jurera, il marchera en notre tête, il conduira nos guerres. Vous savez, mes frères et mes sœurs, c'est de cette façon, depuis là, depuis lors, je dirais même depuis le commencement de la création, que les hommes ont réagi. Voyez autour de vous aujourd'hui les conséquences. Voyez où nous en sommes. L'homme, ou les gens que Dieu avait appelés, ont voulu être comme les autres individus. Ont voulu avoir leur propre religion, leurs propres églises, leur propre façon de raisonner, de choisir. Et aujourd'hui, vous en voyez les conséquences. Et ils n'ont pas écouté les paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous-mêmes, de par le monde, d'une façon générale, nous ne voulons pas écouter la parole divine. Nous ne voulons pas suivre le véritable Dieu. Nous ne voulons pas vraiment nous soumettre à sa volonté. La seule façon de découvrir le bonheur, mes frères et mes sœurs, la seule façon d'être sur le bon chemin, la seule façon d'avancer sur la véritable révélation en ce qui concerne la vie éternelle, c'est de croire à la Bible. C'est de faire ce que Dieu nous dit dans la Bible et ne pas changer de direction. Une fois que vous avez trouvé la bonne Église, vous ne pouvez pas la quitter. Vous ne pouvez pas la changer. C'est votre vie. C'est votre façon de penser, de vivre, de choisir. C'est votre façon d'adorer Dieu. C'est votre façon d'aimer votre prochain. Alors vous êtes sur le bon chemin. Alors vous n'aurez pas besoin de chercher, de demander à quelqu'un, même à moi, que dois-je faire pour trouver la bonne Église. J'espère que vous me comprenez. Nous ne sommes pas, nous, dans l'Église de Dieu, parfaits, loin de là. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés parce que Dieu nous a confié une tâche. Mais c'est tout. Et nous devons, nous, faire notre travail, accomplir cette tâche avec honnêteté, avec amour, sans faire distinction de personne, mais sans faire de compromis non plus. C'est ça la base. Nous ne comprenons pas toujours, non. Écoutez, prenez Moïse. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour une tâche, Moïse ne comprenait pas ce que Dieu voulait. À cette époque-là, Moïse avait une vie tranquille, pour ainsi dire, et il ne voulait pas vraiment changer sa vie. Regardez ce qui s'est passé. Dieu a choisi Moïse parce que Dieu avait quelque chose en tête pour Moïse. Le peuple souffrait. Le peuple était malheureux. Le peuple était esclave. Alors, Dieu a choisi Moïse afin que Moïse, par la force divine, puisse délivrer le peuple Israël. Voilà, voilà ce que c'était. Moïse ne comprenait pas, Moïse ne savait pas ce que c'était. Alors, laissez-moi citer cette histoire brièvement. Exode 3, versets 13 à 15. Lisez le reste. Lisez le tout, ça vaut la peine. Exode 3, versets 13 à 15, nous lisons, Moïse dit à Dieu, lorsque Dieu lui a dit ce qu'il avait en tête, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, c'est ce que Dieu veut, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il ne m'écoute pas, s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je » Voyez-vous, Moïse ne savait pas comment il était dirigé par Dieu. Il ne comprenait pas, il savait qu'il n'était pas capable, humainement parlant, d'accomplir cette mission. Personne ne pourrait, sauf si Dieu l'aide. Alors le Dieu d'Israël a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Dieu s'est révélé à Moïse par cette phrase, « Je suis, c'est le verbe être, qui suis, c'est le verbe être. » Autrement dit, c'est l'Éternel. C'est la signification de l'Éternel. Et Dieu ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » voilà, donc, l'Éternel m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, verset 15, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères. » Voyez-vous, c'est cette même phrase qui se répète dès le commencement. Écoutez-le. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voyez-vous, l'éternité. Je suis donc je suis. Voilà mon nom de génération en génération. Entendez-vous cette recommandation divine? Elle est la même aujourd'hui. Elle était la même dès le commencement, lors de la création d'Adam et d'Ève. Cette recommandation n'a jamais changé. L'attitude des gens a changé. Voilà pourquoi il y a eu toute cette confusion, et toute cette confusion en ce qui concerne la religion proprement dite. Il n'y a pas plusieurs religions, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs éternels. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule Église. Mais pour trouver cette Église, Pour trouver ce Dieu, vous devez vous tourner vers la source, c'est-à-dire sa parole, la Bible. Moïse, à l'époque, a dû prendre une décision. Il ne savait pas lui-même. Il avait le même caractère que vous et moi. Il avait la même nature. Il a dû vraiment lutter pour découvrir comment suivre la bonne voie, comment vraiment être un serviteur de Dieu. Mais il a eu la sagesse, voyez-vous, de suivre Dieu, de suivre les ordres de Dieu, de faire ce que Dieu lui demandait. Vous connaissez le reste, vous n'avez qu'à lire, je vous ai dit. Lisez le reste de l'histoire. C'est grâce à cette obéissance que Moïse a pu faire la volonté de Dieu, a pu surmonter les difficultés énormes qui se dressaient devant lui, parce que c'est Dieu qui les conduisait. Le peuple n'a jamais compris. Le peuple disait, tu nous as fait sortir d'Égypte. Non, ce n'est pas Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Non, c'est Dieu. Moïse était un instrument entre les mains de Dieu. Comme nous sommes tous un instrument entre l'éternel Dieu. Soyons ministres ou quoi dans l'Église de Dieu. Nous sommes des instruments. C'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui nous conduit. Et tournez toujours vers Dieu, soyez courageux. À l'époque là, je répète, le peuple n'avait pas la compréhension. Le peuple ne comprenait pas. Le peuple a refusé, une fois sorti d'Égypte, à suivre Dieu. Ils ont préféré l'esclavage. Eh oui, ils ont voulu être comme les autres nations. Si vous voulez être comme les autres nations, comme les autres peuples qui ont leur propre Dieu, leur propre croyance, dans ce cas-là, vous êtes encore dans l'esclavage. Dieu a dit, et je cite maintenant Deutéronome, chapitre 4, versets 28 et 31, « Tâchez de bien suivre le commandement que je vous lis ici. » Deutéronome 4, 28 à 31. Et c'est là, vous servirez les dieux, ouvrage de main d'homme. C'est l'avertissement que Dieu donne, de bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Dieu a toujours donné à son peuple l'avertissement nécessaire. Verset 29. C'est là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Voyez-vous, c'est la même phrase qui se répète. Et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est une promesse absolue. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, en toute humilité, avec tout courage, vous le trouverez. Verset 30, Deutéronome 4. Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Dieu encore nous met en garde. Alors, dit-il, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, voyons maintenant comment Dieu se définit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Miséricorde signifie miséricorde. Il n'y a pas d'exception dans le terme miséricorde. Nous devons être miséricordieux, comme le Christ a dit, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Dieu veut que nous soyons miséricordieux, car lui-même est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point, ne te détruira point, et n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Voyez-vous, c'était le commencement. Avant la venue de Jésus. Après l'arrivée de Jésus, sa naissance, les choses n'ont pas changé. C'est toujours le même principe, c'est toujours le même Dieu, c'est toujours le Créateur des cieux et de la terre. Mais avec la venue de Jésus, il nous a aussi permis d'avoir, après la mort et la résurrection du Christ, l'accès à la vie éternelle. Par la puissance du Saint-Esprit. La grande différence, la différence principale, je dirais, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que sous le Nouveau Testament, nous avons accès à la vie éternelle par le Saint-Esprit que nous recevons après notre baptême, notre repentir bien sûr, notre baptême et la réception du Saint-Esprit. Une fois que vous comprenez ceci, vous verrez que l'appel que Dieu a fait à l'ancien Israël en tant que peuple physique est à peu près sur le même terme que l'appel que Dieu nous fait aujourd'hui sous le Nouveau Testament. C'est le même, sauf que du point de vue spirituel, nous avons cette puissance, cette compréhension du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre beaucoup plus, d'obéir davantage, de saisir l'essence spirituelle des commandements de Dieu. Notez-le. Jean chapitre 6, verset 44. C'est le Christ qui parle. Il dit, « Nul ne peut venir à moi. » Vous voulez suivre le Christ? Vous voulez savoir ce qu'il veut que vous fassiez? Le Christ dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire. » Oui, c'est toujours le Père qui nous attire. Et dit-il, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Quand c'est le dernier jour? Le dernier jour, c'est lors du retour du Christ, lorsque les morts seront ressuscités. Voyez-vous, si vous suivez ceci, vous comprenez le plan divin. Et vous croyez au plan divin. Et vous faites ce que Dieu vous dit. Dieu répète ce verset à plusieurs reprises. Dieu nous montre comment vraiment le croire. Et il nous montre par la façon dont il dirige notre vie, il nous montre comment vraiment être chrétien. Dans la Bible, page après page après page, vous verrez comment être vraiment chrétien. Mais cela demande des efforts de votre part. Changez votre nature charnelle. Changez votre façon de raisonner. Changez vos humeurs même. Voyez-vous, le véritable chrétien est quelqu'un qui est disposé à changer, qui fait tout pour changer. Non pas à sa façon, mais à la façon divine. Là, vous êtes sur le bon chemin. Vous ne cherchez pas où est Dieu. Vous ne cherchez pas la bonne église. Parce que vous serez dans la bonne église. Car vous aurez Dieu en tant que votre guide. Dieu nous aime. Dieu veut que nous puissions toujours arriver au but. Dieu nous donne et nous donnera toujours l'aide nécessaire. Ne dites jamais que vous n'avez pas les moyens. Ce faisant, vous faites Dieu menteur. Non, Dieu vous donne la force. Dieu vous donne les moyens. Dieu vous permet de découvrir la vérité si vous avez l'esprit ouvert. Ne fermez pas votre esprit par les influences étrangères, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas Dieu, des gens qui ne croient pas en Dieu. Ne permettez pas à ces gens-là de vous changer d'esprit ou bien de vous faire croire à quelque chose d'autre. Dieu ne change pas. Dieu, le Dieu de la Bible, nous a montré le chemin dès le commencement et il va nous montrer le chemin jusqu'à la fin, à condition que nous comprenions cette vérité de base. Si nous cherchons Dieu, Dieu va se révéler à nous. Notez encore ce qui est écrit dans 2 Chroniques, toujours dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. Il s'agit là d'un roi et d'un prophète. Alors, Azaria alla au-devant d'Asa, le roi, et lui dit, un prophète qui parle maintenant à un roi, il dit, « Écoutez-moi, dit-il, vous tous, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » C'est le même principe, voyez-vous. Ça se répète d'une façon différente. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. C'est une promesse, Dieu ne ment pas. Alors, croyez ceci. Ne dites pas, « Dieu ne me répond pas. » Ce faisant, vous faites Dieu menteur. Non, si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, alors c'est Dieu toujours, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Savez-vous, je répète, c'est ce même avertissement qui se répète dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Le Christ est venu nous assurer de cette vérité, je dirais, fantastique. Si nous cherchons Dieu, nous le trouverons. C'est le même Dieu, il n'y a pas deux dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Christ du Nouveau Testament. Mais il s'est révélé d'une façon différente parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous permet de mieux comprendre ces vérités essentielles. Les promesses divines dans l'Ancien Testament sont plutôt de façon physique, mais dans le Nouveau Testament, ces mêmes promesses se révèlent afin que nous puissions les comprendre dans leur esprit spirituel. Nous devons tous apprécier ce que nous avons, être reconnaissants de ce que Dieu nous donne. Nous devons vraiment être des enfants de Dieu, non pas à notre façon. Un enfant ne dicte pas à ses parents ce qu'il veut être. Un enfant obéit à ses parents pour savoir ce qu'il doit être. Comment être un meilleur enfant? Comment devenir un jour un meilleur adulte? Nous devons tous, dans l'Église de Dieu, et vous qui n'êtes pas membre de l'Église de Dieu et qui cherchez Dieu, dites-moi vous-même, je veux faire ce que Dieu me dit, et dans le sens physique et dans le sens spirituel. Dans ce cas-là, voyez-vous, vous ne chercherez pas en disant où est la véritable religion. La véritable religion est devant vous dans la Bible. Ce que vous devez faire, c'est ouvrir les yeux et en même temps ouvrir la Bible. Et regardez, et lisez. Ne faites pas de compromis avec ce que vous lisez. C'est là le problème. Écoutez, en tant que ministre, je sais, je parle à beaucoup de gens. C'est incroyable de voir comment les gens interprètent la Bible. À leur façon, votre façon d'interpréter la Bible n'est pas la bonne. On n'a pas besoin d'interpréter les paroles de Dieu. Elles sont claires. À condition que vous ne changiez pas ce que Dieu vous dit. Dieu vous demande une chose. La fidélité, l'obéissance, l'honnêteté. Faites ce qu'il vous dit, et dès qu'il vous donne son Saint-Esprit, après votre repentir, après votre baptême, et le baptême, je vous ai toujours dit, d'après la Bible, n'est pas pour les enfants. Il faut être adulte pour se faire baptiser. Il faut se repentir avant de se faire baptiser. Donc, une fois que vous avez rempli ces conditions, dans ce cas-là, vous verrez comment Dieu vous montre le chemin à suivre. Vous aurez toujours des problèmes. Vous êtes toujours physique. Vous êtes toujours humain. Vous aurez des tentations, comme tout le monde. Une fois baptisé, vous n'êtes pas à l'abri des attaques de Satan, pas du tout. Mais n'ayez pas peur, car Dieu est avec vous. Dieu vous guide, Dieu vous garde. Dieu vous guide, dans ce sens que vous devez quand même faire exercice de votre volonté, poursuivre la volonté de Dieu, et non pas le dictamen de vos désirs, de votre volonté. Chercher une religion autre que la vôtre n'a pas de sens, à moins que vous n'ayez pas ce fondement, voyez-vous. Si vous avez ce fondement, vous n'avez pas besoin de chercher une religion, une église. Vous n'avez même pas besoin de chercher Dieu parce que c'est Dieu qui est avec vous. C'est le même Dieu qui vous guide. C'est le même Dieu qui vous permet de comprendre comment agir, comment vraiment vivre. À titre d'exemple, prenez ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Eux, ils avaient, à l'époque, pas la compréhension spirituelle, mais ils avaient Dieu, leur guide. Dieu les guidait le jour et la nuit. Et alors, lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, je dis bien Dieu par Moïse, sous la direction de Moïse, d'accord. Mais Moïse était un instrument. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, voilà que, sitôt après, ils n'ont plus d'eau pour boire. C'est incroyable. Humainement parlant, lorsque nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous sommes chrétiens. Nous sommes dans la bonne église, pensons-nous. Dès que nous perdons quelque chose, un ami, ou quelque chose de physique, ou quelque chose qui nous est cher, tout d'un coup, nous commençons à douter de Dieu. Mais écoutez, pourquoi ? Voilà pourquoi. Dieu, après 10 miracles, a fait sortir les enfants d'Égypte et leur a promis qu'ils auront tout. Ils entreront dans le pays promis, dans le pays où coule le lait et le miel. Ils ont tout ça, toute cette promesse. Qu'est-ce qui se passe ? 3 jours plus tard, ils n'ont pas d'eau et voilà qu'ils commencent à rouspéter en bon français. Voilà, ils disent, pourquoi est-ce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte ? Écoutez, ne soyez pas imbéciles, je m'excuse du terme. Vous étiez esclaves, vous souffriez, vous avez demandé, Dieu vous a sorti d'Égypte, et voilà que vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il m'a fait sortir d'Égypte ? Et c'est pour vous tuer. Alors, Exode chapitre 15, verset 25. Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Voyez-vous, voilà encore un autre miracle. L'eau devint douce afin que les enfants d'Israël puissent en boire. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Donc, ça, c'est déjà le commencement où Dieu donne des lois, des ordonnances, pour que Dieu comprenne et agisse et fasse. Et ce fut là que, aussi, Dieu mit le peuple à l'épreuve. Il faut mettre à l'épreuve, parce que vous devez, vous, prouver que vous êtes capable de faire ce que Dieu vous dit, car c'est Dieu qui vous donne la force quand même, c'est Dieu qui vous montre ce qu'il faut faire, c'est Dieu qui vous ouvre le chemin. Mais faites votre part. Faites votre part et ne soyez pas paresseux. Beaucoup de gens sont paresseux. Ils veulent que les autres fassent pour eux ce qu'eux-mêmes peuvent faire. Examinez votre vie. Voyez si j'ai raison. Je suis dans le même cas, voyez-vous. Je voudrais bien que quelqu'un fasse pour moi ce que je dois faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous devons chacun faire notre part. Certes, si nous avons un ami ou une amie qui nous aide, tant mieux. Mais en fin de compte, c'est nous qui devons faire. Le véritable ami que vous cherchez, c'est Dieu. Et dans le monde physique, si vous avez un ami, si vous avez des amis, soyez sûr que ces amis vous conduisent sous le Christ. Que ces amis vous sont utiles pour que vous puissiez rester dans la bonne voie et non pas faire des détours. Ne croyez jamais qui que ce soit qui vous montre des compromis avec Dieu, et ce faisant, vous met sur le mauvais chemin. Je continue. Donc, après avoir donné au peuple, à l'époque, de l'eau douce, regardez voir la promesse que Dieu a faite. C'est une promesse qui se répète dans le Nouveau Testament d'une façon générale, et aussi d'une façon, je dirais, principale. Notez-le. Exode 15, versets 25 à 26. Rappelez-vous ce verset, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est principalement le principe même du Nouveau Testament. Exode 15, versets 25 à 26. Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, et nous sommes tous sujets à cette règle. Il dit, regardez voir ce qu'il dit, regardez voir les si. Il dit si, verset 26, si tu écoutes attentivement. Le mot attentivement est important. Ce n'est pas une question d'écouter passivement, mais attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si, encore un si. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, non pas à vos yeux, non pas aux yeux de vos amis. Si, Encore l'autre, si. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et vous, prêtez l'oreille au commandement divin. Et si tu observes, mettez ceci ensemble. Si tu observes toutes ces lois, alors maintenant la promesse arrive. Je ne te frapperai d'aucune des maladies. Voyez-vous, d'aucune signifie d'aucune. Regardez aujourd'hui où nous en sommes. Regardez les maladies, les épidémies, tout ce que vous voulez. Et alors que Dieu a dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Et ensuite, il met son seuil du corps, dit-il, je suis l'Éternel qui te guérit. Cette même petite phrase se répète aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tellement de maladies, tellement d'épidémies. Et nous avons fait des découvertes fantastiques dans le domaine médical. Mais Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies. D'aucune. Et pourquoi sommes-nous malades? Vous avez vu, nous n'avons pas accompli notre tâche. Les si que Dieu avait mis en tant que condition, nous n'avons pas respecté. Revenez en arrière. Revenons en arrière. Respectons ceci, nous verrons comment les miracles vont arriver. Et vous, cette même répétition, cette même, je dirais, instruction, ces mêmes si se répètent dans le Nouveau Testament. Et laissez-moi citer Jacques, chapitre 5, verset 14, parce que c'est le même principe, c'est la même idée, mais vu du point de vue spirituel. Jacques a écrit sur l'inspiration divine, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» La réponse est oui. Il y a parmi nous beaucoup de malades, beaucoup d'épidémies. Alors, qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens sont le ministre, le véritable ministre de Dieu. Et que les anciens prient pour lui, voyez-vous, c'est ça ce que Dieu veut que nous fassions. Nous allons vers le ministre. Nous lui demandons de prier pour nous. Et qu'est-ce qui se passe après? Lorsque les anciens prient, qu'ils loignent de l'huile au nom du Seigneur, et le malade sera guéri. Voilà, c'est une promesse divine. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne dis pas que les médecins ne nous aident pas, non. Les médecins ont leur place dans la vie. Mais la véritable guérison vient de Dieu. C'est Dieu qui nous l'octroie. Et cette guérison a lieu lorsque nous accomplissons la tâche que Dieu nous dit en disant si. Rassemblez ces si. Et demandez-vous, est-ce que je fais ma part? Voyez-vous, revenons encore à Ésaïe chapitre 59. Ce sont des vérités absolues, mes frères et mes sœurs. Si la vie que nous avons, que nous menons, n'est pas bonne, si la vie que nous menons n'est pas celle qui nous plaît, si nous sommes malheureux, si nous sommes en quelque sorte abandonnés, nous pensons être abandonnés, la raison en est, c'est que nous n'avons pas cherché le véritable Dieu. Et si nous avons cherché, nous n'avons pas vraiment gardé ses commandements. Voyez-vous, une fois encore, ce que Ésaïe dit cette fois-ci, Ésaïe, un des grands prophètes de l'Ancien Testament, chapitre 59, versets 1 à 2. Écoutez bien, il dit, « La main de l'Éternel, c'est le prophète de Dieu qui nous donne cette promesse. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. C'est une garantie absolue, c'est une promesse absolue. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. » Écoutez, ce ne sont pas des mensonges, je répète. Dieu peut tout faire. Ici, le prophète Ésaïe nous montre cette vérité d'une façon extrêmement simple. Il dit alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 2, Ésaïe 59. Ce sont quoi? Vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. dans la désobéissance à Dieu ou envers Dieu, c'est un crime. C'est ça qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Le péché, c'est la transgression des lois divines qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce sont ces vérités-là auxquelles vous devriez réfléchir avant de blâmer Dieu en disant « Où est Dieu ?» ou « Comment est-ce que je cherche la véritable Église ?» Dieu tient toujours ses promesses. Notre part à chacun, c'est de croire à ce qu'il dit. C'est de nous soumettre à ce qu'il recommande. C'est de faire sa volonté. En toute chose, en toute occasion, cherchez Dieu. Et si vous voyez sa présence, suivez cette présence, quel que soit le prix à payer. Je vous ai dit au commencement de ce sermon qu'il y a un seul Dieu. Et c'est vrai, absolument vrai. Il y a une seule Église véritable, et c'est Dieu, absolument vrai. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de chercher Dieu si on fait sa volonté. Et c'est vrai, absolument vrai. C'est cette assurance que les prophètes ont eue et avec laquelle ils ont opéré. C'est cette assurance avec laquelle les apôtres du Christ ont travaillé. Ils ont souffert. Certes, ils ont payé la plupart d'entre eux de leur vie, mais ils seront dans la résurrection des morts. Ils seront dans le royaume de Dieu. C'est cette assurance qui va nous aider, nous tous, vous, moi. Nous avons de bonnes intentions, mais pas toujours la force de continuer dans la bonne voie. Cela demande du courage. Ce courage vous vient de Dieu. Si vos amis vous aident ou peuvent vous aider, tant mieux. Mais comptez sur Dieu ou sur quelqu'un qui est véritablement disciple de Dieu. Et marchez ensemble ces deux fois main dans la main. Mais faites votre part afin que votre assurance se repose principalement sur Dieu. Car c'est Dieu qui fait. Prenez l'apôtre Paul. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais j'aurai pas le temps, comme d'habitude. L'apôtre Paul a beaucoup souffert. L'apôtre Paul a dit, juste avant de mourir, qu'il a gagné la bataille. Bon, mais lui qui a souffert, lui qui a été en prison, lui qui nous montre le chemin, quelle a été la chose principale qu'il nous dit dans ses écrits. Et laissez-moi vous citer pour terminer. Voilà, c'est la vérité principale dont je vous parle aujourd'hui. Je cite Éphésiens chapitre 4, Matthieu. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Il dit « Je vous exhorte, frère, dit-il, à l'époque, quand il a écrit ceci, dans Éphésiens, il était prisonnier, moi prisonnier, dans le Seigneur, à chercher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Votre appel par Dieu est une vocation. Votre appel en tant que membre de son Église est une vocation. » Et Paul dit, marchez digne de la vocation qui vous a été adressée. Et comment? Verset 2. Il vous montre le chemin, à vous, à moi, en toute humilité, c'est la base, en toute douceur, avec patience. Lisez et relisez ces mots. Vous supportant les uns les autres avec amour ou charité. Vous efforçant, verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est beau ça. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cherchez la paix, vivez la paix les uns avec les autres, pas nécessairement en étant d'accord avec ce qu'ils font, ce qu'ils disent, mais en faisant en même temps ce que Dieu veut que vous fassiez, ce que Dieu veut que vous fassiez pour marcher dans la vérité. Et Paul explique, je dirais, au verset 4, Éphésiens 1, regardez voir. Il répète ce que j'ai dit en une phrase très claire, très simple, et facile à comprendre. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. On ne peut pas être plus clair. Il y a un Dieu, un seul. Il y a une Église, une seule, qui soit la bonne. Nous qui sommes appelés, nous qui sommes ses serviteurs, nous devons marcher selon les instructions qu'il nous donne à travers les pages de la Bible. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est notre manuel d'instruction. Croyez-la, suivez-la, faites votre part. Et vous n'aurez jamais besoin de vous dire, suis-je dans la bonne Église? Ai-je vraiment le véritable Dieu qui nous a créés en tant que mon Dieu? La réponse sera claire. Si Dieu, c'est l'Éternel, et votre Dieu, suivez-le. Je vous dis, c'est la meilleure recommandation, le meilleur conseil que je vous donne, à vous et aussi à moi. Suivons l'Éternel Dieu qui nous montre le chemin de la vie éternelle. Et un jour, nous serons tout heureux d'avoir fait sa volonté.